Alors, pendant que les documents continuent d'être distribués, je vais commencer mon commentaire et puis déjà vous expliquer un peu mieux ce titre qui au tout début devait vous paraître bien énigmatique. J'ai choisi d'intituler cette intervention Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Vous avez compris que c'est la toute première phrase de la voix off qu'on entend dans ce film. Ce film, évidemment, l'a jeté, peut être vu et commenté de bien des points de vue. Compte tenu de la session, j'ai choisi un des principaux, c'est pour ça que je l'ai évidemment choisi, c'est celui de la mémoire, dans la mesure où, bien que ce soit une science-fiction, et bien que on puisse le regarder d'un point de vue beaucoup plus formel, on peut aussi y voir, dans ce film très surprenant, une longue méditation sur ce qu'est la mémoire. Alors, qu'il me revient avec vous de reconstituer, parce que, comme toute science-fiction qui s'assume, les méandres et les paradoxes du temps rendent tout cela un peu énigmatique. Mais je pense que ce sera pour vous tous l'occasion de voir ou de comprendre ou de réfléchir à ce qu'est la mémoire d'un tout autre point de vue. Comme je vous le disais tout à l'heure, Chris Marker vient du documentaire. Est habitué à un certain rapport à la photographie et utilise une forme ici qu'on connaît en fait depuis le cinéma muet, hein, c'est quelque chose déjà de très ancien, qu'on appelle aujourd'hui le banc-titre, que lui appelle le ciné-roman, que vous pouvez comparer au roman photo qu'on trouve encore dans certaines revues ou sur certains sites, qui consiste en une suite d'images fixes et en revanche d'une bande-son qui, elle, est tout à fait habituelle. Depuis le cinéma parlant. Donc, de ce point de vue-là, pour nous, ça a quelque chose d'un petit peu exotique. Ça l'était peut-être un petit peu moins au début des années 60. Et ce qui est certain, pour ceux qui parmi vous ont découvert ce film, c'est que c'est quelque chose qui passe tout à fait. Hein, on n'a pas le sentiment d'une saccade permanente. Donc, le choix du récit est particulier. C'est une science-fiction. Deuxièmement, le choix formel est particulier. Le noir et blanc. Alors, on pouvait évidemment trouver pas mal de films en noir et blanc. Dans les années 60, mais on maîtrisait très bien la couleur, hein, surtout pour des photographies. Donc c'est un choix supplémentaire qui rend cette œuvre là aussi un petit peu plus énigmatique. Et puis, en dernier lieu, ce qui complique encore un petit peu la chose et qui rend ce film assez troublant, c'est qu'il est d'un format, je vous disais, moyen métrage, c'est-à-dire ni le court métrage qui sans doute serait en l'occurrence serait un peu trop court pour exprimer les choses, mais qui entre guillemets, choisit quand même une certaine synthèse, une certaine densité, une certaine condensation. Et à la différence d'un long métrage, voire d'un très long métrage, eh bien, nous empêche peut-être ici de profiter du confort ou des facilités d'un récit un petit peu plus doucement distillé. Donc ce film est à maintes reprises surprenant et recoupe, d'après Chris Marker lui-même, dans les quelques commentaires qu'il a pu faire sur son idée de départ, sa propre biographie. Alors lui-même s'est dit choqué par une image d'enfance qui l'a poursuivi un peu comme un trauma toute sa vie. Alors c'est pas une image malheureuse ni mystérieuse comme au début de notre film, mais c'est bien davantage un film qu'il a vu quand il était petit. Alors, un peu oublié depuis, ça s'appelle La merveilleuse vie de Jeanne d'Arc en 1928, c'est pas le film avec Falconetti très connu, c'en est un autre. Et il dit ceci à propos du visage de Jeanne d'Arc qu'il voit dans ce film-là. C'est cette image qui a appris à un enfant de 7 ans comment un visage emplissant l'écran était d'un coup la chose la plus précieuse au monde. Quelque chose qui revenait sans cesse, qui se mêlait à tous les instants de ma vie, dont se dire le nom et se décrire les traits devenaient la plus nécessaire et la plus délicieuse occupation, en un mot, que ce n'était que de l'amour. Voilà comment il décrit son traumatisme. Alors, un traumatisme plutôt heureux, hein, oui, c'est une sorte d'image obsessionnelle presque fantasmatique d'un gros plan. Hein. Donc vous imaginez le film muet en noir et blanc, c'est peut-être pas ce qui nous, aujourd'hui, nous toucherait le plus, mais c'est ce qui lui l'a touché. Et il dit ensuite qu'il a toujours eu cette fascination pour le gros plan au cinéma. Fascination évidemment qui n'est pas obligé de motiver tous les usages de tous les gros plans de tous les films, mais qui ici explique en partie ce retour récurrent de la femme que rencontre notre héros. Je faisais allusion tout à l'heure au contexte historique, je pense que maintenant vous le comprenez mieux. Hein. Le présent du film, celui à partir duquel on va voyager et dans le passé et dans le futur, est un présent apocalyptique, celui d'une terre et plus particulièrement de Paris dévastée par une guerre atomique. C'était l'angoisse assez naturelle et commune durant les pires années de la guerre froide, et l'année 62 en est une des pires. De sorte que ce film, évidemment, se plonge dans un contexte dont on peut se demander pourquoi il débouche sur la science-fiction. Il était peut-être possible d'arriver à une vision de la mémoire ou à l'expression de ce type de récit par une autre forme que la science-fiction. Alors, premièrement, témoignage biographique, là encore, Chris Marker a fait part d'une sorte de volonté d'enquête sur le passé qu'il avait entamé dans ses documentaires, mais plus généralement sur la mémoire, qui est un de ses thèmes récurrents, qui passerait par une autre voie que le documentaire. C'est comme si, ayant déjà testé la forme réaliste, il avait envie de passer un peu à autre chose, et c'est sûr que là, il passe à un des genres très particuliers du cinéma, qui à l'époque n'est même pas un des genres majeurs du cinéma, il l'a jamais d'ailleurs, je crois, été en littérature, mais au cinéma, pas encore vraiment. Donc c'est un genre marginal, et pour lui, une expérience un peu comme un pas de côté, hein, dans son passé de documentariste. Mais surtout, ça c'est pas dans son témoignage, c'est une raison que nous pouvons vite analyser, c'est que si vous voulez traiter de la mémoire, vous pouvez évidemment faire un documentaire historique, hein, c'est ce qu'il a fait à plusieurs reprises. Vous pouvez filmer le présent en le comparant au passé et en présentant votre documentaire comme une future trace, c'est ce qu'il fait dans son autre film Le Joli Mai à la fin des années 60, ou bien vous pouvez faire de la science-fiction. Parce que qu'est-ce qui va distinguer la science-fiction de tous les genres, à supposer que la distinction des genres fonctionne, eh bien c'est le jeu sur le temps, et plus particulièrement la projection dans un futur, la plupart du temps très hypothétique, plus ou moins probable, mais toujours un futur, et éventuellement, depuis ce futur, des allers-retours incessants vers le présent, ou, en l'occurrence, vers le passé. De sorte que ces éléments contextuels, un présent qui trouve à se déposer dans une œuvre qui finira par être un témoignage du passé. Pour nous, c'est un film qui montre bien le contexte de l'année 1962. Donc en cela, il fonctionne comme un support de mémoire. Un film qui emprunte ces images fixes dont le documentaire en général est pas mal tissé, en tout cas ceux de cette époque-là. Et un film de science-fiction, c'est-à-dire qui joue sur les différences des temps, devient un film particulièrement pratique pour penser une certaine forme de mémoire et exprimer un certain point de vue de cinéaste sur celle-ci. Alors, pour autant, ce film est traversé par pas mal de difficultés, même si apparemment tout le décor est posé pour que nous puissions réfléchir du point de vue cinématographique à ce qu'est la mémoire. Et je voudrais en relever deux qui vont être moteurs pour la réflexion que je veux mener avec vous. Première difficulté, ce film, ça ne vous aura pas échappé, joue beaucoup sur la rêverie, une certaine douceur, une certaine poésie. On aurait pu tout à fait lire l'ensemble de ce film à partir de l'idée de poésie. Autrement dit, sur un certain pouvoir qu'a l'imaginaire, qu'a le rêve ou qu'a le cinéma de modifier le réel. Et la scène, de ce point de vue-là, est parfaite. Vous êtes dans un présent totalement apocalyptique et vous vous évadez de ce présent par votre rêverie, par l'imaginaire, par le saut dans le passé. Donc on a un film qui nous présente le pouvoir, alors, du rêve ou de la mémoire, on ne sait pas trop au départ, pour nous ce sera plutôt celui de la mémoire, sur le réel. Et puis en même temps, on s'aperçoit que la mémoire à partir de laquelle ce prisonnier va rejoindre un passé sans devenir fou comme ceux qui l'ont précédé, eh bien, est une mémoire d'un temps qu'il a véritablement vécu. Cette scène d'enfance l'a traumatisé. Alors, encore une fois, un peu comme dans la vie de Chris Marker, c'est-à-dire un traumatisme heureux, hein. On présente souvent le trauma comme quelque chose de malheureux, ou alors il faudrait trouver un autre mot pour parler d'un choc heureux. En général, on ne va pas voir le médecin, encore moins le psychiatre, pour une image heureuse qui nous obsède, mais plutôt pour des images qui seraient malheureuses. Ici, ce n'est pas le cas. Cette image d'enfance à partir duquel tout le film va se structurer, qu'on va retrouver de façon récurrente, hein, elle ouvre et elle ferme le film, eh bien, c'est une image heureuse, mais c'est une image qu'il n'a pas inventée, notre prisonnier. Et de ce point de vue-là, on aboutit à un premier paradoxe qui est que la mémoire permet de s'échapper d'un temps, mais elle vous ramène aussi à un temps que vous n'avez pas choisi. D'où ma première question, toute simple, très classique, que les élèves de C ne vont cesser de traiter cette année, et que mes cagneux qui, par le hasard des concours, pour les spécialistes, vont retrouver au deuxième semestre. J'autorise par avance, si ça les intéressait, les EC à voir du côté des notes de leurs camarades de gagne. On n'aura pas le même traitement, Jean Caron et moi-même, hein, parce que c'est pas le même type de concours. Le concours des EC est plus ouvert sur les films, les livres, les œuvres d'art, etc. Nous, on fait de la philo à la manière de Platon, donc on va lire des livres poussiéreux, mais de ce point de vue-là, vous aurez peut-être quelques compléments intéressants. À vous de voir si c'est utile. Donc première question, quel est le pouvoir de la mémoire? Et plus particulièrement le pouvoir sur la réalité du moment, c'est-à-dire face à un présent dont personne ne veut dans ce film, celui de la destruction de la Troisième Guerre mondiale, eh bien, qu'est-ce que peut la mémoire? Vous voyez d'ailleurs aux exemples que j'ai pris qu'on aurait pu poser symétriquement la même question pour l'imagination. Quel est le pouvoir de l'imagination? Et on a dans ce film un parallèle, une contamination permanente entre ces deux facultés. Ça aussi, ce sera une des problématiques classiques autour de la mémoire. En l'occurrence, je n'en traiterai pas. Deuxième difficulté, qui va me permettre d'aboutir à ma deuxième question. On a un personnage qui nous est présenté de façon très classique au début. Voilà, il y a un contexte. Une particularité qui fait que ça va devenir notre héros, alors héros malheureux, mais héros tout de même. On nous en bâtit un portrait d'une façon certes efficace, mais là encore classique. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, la personnalité de ce héros va changer. Au départ, c'est quelqu'un qui a un passé et un présent, avec une particularité. Et puis, au fur et à mesure, son histoire devient celle d'un voyageur dans le temps qui comprendra à la fin du film, que toute sa vie a été fondée sur une image de son propre avenir. Donc au bout d'un moment, il n'est plus du tout un personnage classique. Parce que son histoire, c'est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance, voyant sa mort réelle, non pas y pensant comme une abstraction, hein, pas par induction, mais non. Donc ça devient l'histoire d'un personnage absolument non classique, qui a structuré sa vie par son propre avenir, tel qu'il l'a déjà vécu. Là, on est vraiment dans la science-fiction, il n'y a pas de doute. Et on ne comprendra cela qu'évidemment qu'à la toute dernière image du film. Or, quelle est véritablement son histoire au fur et à mesure du film? Eh bien, à partir de son image de son propre avenir, est-ce encore de la mémoire d'ailleurs, ça paraît de plus en plus compliqué d'en parler comme tel, eh bien, il invente une histoire d'amour avec cette femme qui n'a même pas de prénom, même pas de nom, qu'on ne situe pas, qui est bien moins décrite que lui, qui est d'une souplesse extraordinaire. Hein. Elle n'a pas de numéro de téléphone, elle ne sait pas d'où il vient, elle ne sait pas quand il apparaît, elle ne sait pas à quel moment il s'en va, mais elle est toujours là. C'est la nouvelle version de la science-fiction de la femme parfaite, docile à souhait. Alors peut-être de ce point de vue-là, c'est un peu particulier, donc elle n'est pas du tout dans la docilité d'une image passéiste, etc. Mais elle est quand même extraordinaire. Alors, à un moment, la voix off explique cela. Il parle d'une confiance à l'état pur. Voilà. Sans projet, sans passé. Alors, est-ce que c'est encore de la confiance? Là, le film est peut-être un peu optimiste, à vous de voir, ou vous pouvez dire tout simplement que cette femme accueille les apparitions de notre soldat, ou de notre prisonnier plutôt, comme quelque chose de poétique. Qui arrive et qui s'en va, même si évidemment, au bout d'un moment, on pourrait craindre que cela crée chez elle une certaine réserve. Il n'en reste pas moins que que cela dessine pour nous une autre histoire dans l'histoire, et que les vrais moments où une histoire s'installe, qui devient une histoire vécue, une histoire dans la durée, une histoire qui installe un temps, eh bien, c'est une histoire relationnelle. On a du mal à comprendre exactement la trame du temps dans ce film. La science-fiction joue là-dessus, et ce film joue encore plus là-dessus, sur des boucles temporelles, etc. En revanche, les moments dont on peut le dire qu'ils durent, eh bien, ce sont les moments qu'ils passent ensemble. Comme si, face à un personnage classique qui très vite perd son identité, se reconstituer un temps et une identité à deux. Comme si le temps trouvé dans la relation amoureuse, à supposer qu'elle le soit bien ici, une véritable existence, et comme si les souvenirs qu'il a et qui forment peu à peu l'histoire de ces deux personnages, même si nous on ne le voit que du point de vue du prisonnier, eh bien comme si cette mémoire ne pouvait finalement donner lieu à une histoire vécue et à un souvenir que parce qu'elle est vécue à deux. D'où la deuxième question qui conduira aussi cette réflexion. Si la mémoire structure le rapport au temps, le peut-elle autrement que relationnellement? Ça fait un peu question philosophique posée à un film, mais j'aime bien. Parce que, bon, on peut poser des questions filmiques à un film. Je ne sais pas déjà si le discours est la meilleure façon de le faire. Ça marche en lettres parce qu'on parle des lettres avec des mots, donc ça peut aller. Est-ce qu'on peut faire un commentaire discursif sur un film? Déjà, on a ce premier problème. Et puis ensuite, j'en ai vu, j'en ai entendu, j'en ai fait moi-même. Ça m'a toujours en partie déçu. Voilà, ces analyses très formelles, très internes, très immanentes. Donc de ce point de vue-là, je commets une faute, peut-être, je ne sais pas. Mais j'aime bien poser des questions philosophiques au film, de même que j'aime bien que les alternatives culturelles posent des questions à la philosophie. Donc je ne sais pas si c'est un commentaire cinématographique ou de la philosophie, ou un mélange des deux, ou parce que c'est mélangé, rien du tout, vous prenez ce que vous voulez à l'intérieur. Alors, quatre parties dans ce développement, elles seront relativement courtes. On a commencé un petit peu tard, mais je voudrais quand même vous dire l'essentiel. Donc j'essaierai de ne pas dépasser trop 3 heures. Première partie, on a une approche très classique de la mémoire, puisque celle-ci nous est présentée comme ce qui structure la perception du temps, d'autant plus que ce temps est désordonné. Alors, dans ce film, c'est très clair, mais ceci permet de retrouver une thèse qui est devenue classique en psychologie, même en sociologie, et plus généralement en philosophie, en tout cas depuis bien plus longtemps. Dans un deuxième temps, on verra que cette mémoire est une mémoire extrêmement active. Pour structurer le temps, elle est obligée de transformer le souvenir au fur et à mesure de ses réminiscences, d'où une inquiétude de marqueur sur tous les supports de mémoire. Sont-ils fidèles? Comment envisager une mémoire fiable? On verra dans un troisième temps, ce sera ma manière de rattraper mon défaut initial, que le cinéma pour marqueur de ce point de vue-là est censé incarner ce double pouvoir de la mémoire, c'est-à-dire à la fois structurant et en même temps transformant, à la fois réaliste et en même temps imprégné de liberté face au réel. Et puis, on comprendra, en tout cas j'en ferai l'hypothèse pour terminer cette intervention, que ce rôle de la mémoire, ce double rôle, est sans doute ce qui permet de dégager une identité dans le temps s'il est vécu relationnellement. Alors commençons par l'aspect le plus classique du film, au sens où tout le film est construit sur, je le disais tout à l'heure, des boucles temporelles, et je dis des boucles, il faudrait plutôt les emmêler les unes sur les autres et s'apercevoir que ces boucles finissent par être tellement enchevêtrées qu'on a du mal à les apercevoir comme boucles. Parce que si on essaie de reconstituer la diégèse du film, eh bien, on s'aperçoit que finalement, il a toujours déjà commencé dans l'avenir, puisque la première image était la coïncidence du mois futur du prisonnier et du mois d'enfant, et qu'il a terminé dans le passé, puisque il comprend qu'il est en train de se croiser lui-même comme enfant. Donc déjà, on a du mal à savoir à quel moment faire commencer le film. Est-ce qu'on a piétiné tout du long, ou est-ce qu'on était toujours déjà dans une projection, ou est-ce qu'on était toujours déjà dans une rétrospection? Voilà, première difficulté. Deuxièmement, on a du mal à savoir ce que cette voix off qui parcourt tout le film et qui en structure la narration incarne. Qui incarne-t-elle? Qui parle? De temps en temps, on est dans une forme d'empathie parfaite avec notre soldat, donc on a envie de dire elle traduit le soldat, une sorte de discours indirect libre, et puis parfois on s'aperçoit que non, c'est une voix qui a toute sa distance et qui est extérieure aux expériences de soldat. D'ailleurs, la voix off commence sans ce soldat, hein. Ce film est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance, il n'est pas visible à l'image, il n'a pas encore été sorti de sa prison. Donc tout ceci nous perturbe, et c'est fait pour cela. Au point que dans certains passages de ce discours, eh bien, on ne sait plus exactement qui nous parle. Je cite « Au début, rien d'autre que l'arrachement au temps. » Et juste après, on recommence. Alors, rien d'autre que l'arrachement au temps, là, c'est bien le prisonnier, et on recommence. Là, ça devient le docteur, là, qui fait ses expérimentations. Il leur a donné des voix allemandes. Alors, sans doute que c'était plus facile de situer un paysage, un contexte de guerre avec des Français et des Allemands. Mais enfin, vous comprenez bien que le but n'est pas vraiment de leur donner une nationalité encore moins allemande en tant que telle. Il fallait créer un sentiment d'étrangeté. Et puis, face à toute cette désorganisation et tout ce brouillage, eh bien, Marker insiste par moments sur des besoins de se localiser, donc notamment dans le rapport qu'il entretient peu à peu avec cette femme, où elle lui demande, je cite, elle l'interroge sur son collier, le collier du combattant qu'il portait au début de cette guerre, qu'il portera un jour. Autrement dit, là il va nous dire je viens du futur et là je suis dans le passé, mais lui il dit non, c'est un collier que je porterai un jour, mais là je ne le porte plus, mais je le porte encore. Enfin bref, on s'y perd. Et sans doute le meilleur moment pour voir que tout est fait pour qu'on situe mal ce temps-là, c'est quand arrive la coupe de séquoia géant. Alors, référence à Vertigo pour ceux qui l'ont vu de Hitchcock, puis référence à quelque chose de très classique, hein, de repérer des dates sur des coupes d'arbres plusieurs fois centenaires. Je viens de là, c'est-à-dire il est prêt à donner une indication un peu plus précise de date, et en réalité à ce moment-là, et il retombe automatiquement. Voilà. Donc on s'aperçoit que tout est fait pour que on ait du mal à s'y retrouver dans cette temporalité. Or, face à cette temporalité embrouillée, il y a quelque chose de structurant et qui fonctionne du début à la fin comme un point de repère. Ce point de repère, c'est la mémoire et plus particulièrement l'image d'enfance dont on va nous parler tout au long du film et au sujet duquel la voix off nous dit ceci. C'est le premier extrait, je vous ai mis principalement des extraits de la voix off. Se réveiller dans un autre temps, c'était naître une seconde fois adulte. Le choc était trop fort. Après avoir projeté dans différentes zones du temps, des corps sans vie et sans conscience, les inventeurs se concentraient maintenant sur des sujets doués d'image mentale très forte. Capables d'imaginer ou de rêver un autre temps, ils seraient peut-être capables de s'y réintégrer. Autrement dit, l'homme n'est pas capable de voyager dans le temps, c'est ce qu'on comprend ici. Le transfert dans le passé ou dans l'avenir a quelque chose de déstructurant pour l'individu qui est habitué à une temporalité normale. Oui, mais la mémoire a ce pouvoir de structuration qui ferait qu'on garde une identité, quel que soit le temps où l'on évolue. D'où la suite, la police du camp épiée jusqu'au rêve, cet homme fut choisi entre mille pour sa fixation sur une image passée. Première idée qui se dégage de ce commentaire sur la mémoire dans ce film, c'est que la mémoire est structurante. Alors, elle est structurante de plusieurs points de vue, mais au moins du premier qui est celui de l'identité. Si vous ne composez pas, si, pardon, votre histoire n'est pas fortement ancrée dans un ou des épisodes qui vous définissent, eh bien vous ne supporterez pas qu'on bouge un peu les lignes de votre durée habituelle. Autrement dit, si la mémoire est forte, en tout cas dans ce film, et puis plus généralement dans l'analyse psychologique des facultés, eh bien c'est qu'elle structure l'identité. Thèse relativement classique, mais qui se trouve ici poussée jusqu'à son dernier terme, dans la mesure où nous sommes tous structurés par notre histoire et par la manière dont nous la racontons, nous la représentons. Évidemment, tant que nos repères habituels ne sont pas malmenés, nous n'avons pas à éprouver la force et la cohérence de cette mémoire. À partir du moment où l'on projette les individus, comme dans ces expérimentations, nous dit Chris Marker, dans des temps qui ne sont plus nos temps habituels, eh bien il faut que la mémoire soit d'autant plus forte pour qu'elle garde son rôle structurant. Mais c'est la seule solution dans ce film. On ne pourra rester soi-même, voire construire une nouvelle histoire, que si l'on a une mémoire forte. Un deuxième extrait, toujours de la voix off, excusez-moi, non, pas de la voix off cette fois-ci, mais un commentaire de Chris Marker lui-même, il en a fait assez peu, sur l'allusion qu'il fait à Vertigo avec la coupe de Sequoia. Donc là, il commente le film de Vertigo. Scotty intégrera la folie du temps qui lui transfuse Elster à travers Madeleine. L'honnête Scotty transposera le vertige au sommet de l'utopie humaine. Vaincre le temps, là où ses blessures sont les plus irréparables, faire revivre un amour mort. Et toute la seconde partie, la traversée du miroir, n'est que cela. La tentative démente, maniaque, de nier le temps, de recomposer au travers de signes dérisoires mais nécessaires, la femme dont, au fond de lui, il refuse d'accepter la perte. Alors voilà la vision que Marker a du film Hitchcock. Mais dans cette idée de nier le temps, vous en avez deux, en fait. Vous avez l'idée de faire survivre des images du passé, hein, l'aspect documentaire. Donc comment nier le temps, comment faire des films de mémoire. Et deuxièmement, dans la mise en scène de notre personnage ici, comment faire en sorte que le voyage à travers le temps ne soit pas déstructurant. Alors vous l'aurez compris, le rôle de la mémoire est finalement assez contradictoire et ça me servira de transition vers le deuxième moment de cette réflexion, parce que on a à la fois besoin que ce personnage soit structuré par une mémoire d'un épisode qu'il a vécu, c'est le cas dès le début du film, l'image d'enfance, et en même temps, on a besoin que ce ne soit que le support pour transformer son propre passé, puisqu'il va vivre une époque passée durant laquelle sans doute il n'était jamais né, enfin on peut le supposer, puisque il est totalement fasciné par les plastiques, les couleurs, les grands magasins, et même le tissu éponge, qui n'est pas la matière qui fait le plus rêver, hein, on imagine quelque chose, encore les couleurs, bon, les plastiques, déjà ça me paraît un peu artificiel, ça l'était peut-être moins dans les années 60, parce que c'est le moment où ça commence à se diffuser, donc il y a peut-être l'effet de la nouveauté, le tissu éponge, parce que ça fait rêver. En tout cas, lui, il n'a pas vécu ça, hein. On nous l'aurait présenté autrement. Donc, il vit un tout nouveau passé, d'où ce deuxième rôle de la mémoire, qui tout d'un coup devient quelque chose de très plastique, et qu'on peut transformer, ou qui peut transformer, le passé d'un individu, peut-être pas absolument, mais du moins en partie. Donc c'est ce point que je voudrais aborder maintenant, avec le retour là aussi à une thèse assez classique, mais que Marker exploite jusqu'au bout, c'est que finalement le souvenir est assez peu distinct de l'imagination. On s'est tous pris à cette illusion parfois, quand la conscience est un peu moins en alerte, quand on est fatigué, ou tout simplement quand on ne cherche pas à être attentif, de ne plus tout à fait distinguer ce qu'on avait imaginé et ce qu'on a vécu. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent en cours. Voulais-je dire, ah non, pardon, mais je croyais, parce que j'imagine mon public en face de moi quand je prépare mes cours. Alors parfois, je ne sais plus si j'ai dit, si j'ai pas dit. Bon, réflexe de prof vieillissant peut-être, mais de façon plus générale, indépendamment de mes quelques cheveux blancs, il y a dans les facultés logiques une immense proximité entre la mémoire et l'imagination. On le sait empiriquement depuis au moins Socrate et Platon, sans la moindre ambiguïté. On le sait maintenant avec les images de la neuroscience. Il se trouve que, même si l'esprit ne se résume sans doute pas à l'encéphale, quand on se rappelle ou quand on imagine, les zones actives du cerveau sont voisines. De sorte que de temps en temps, quand la mémoire fait défaut, elle puise dans l'imagination. Et ça explique aussi que l'imagination aille très très souvent chercher du côté de la mémoire pour travailler. On dit parfois que la mémoire, l'imagination, pardon, ce n'est jamais que de la mémoire recombinée. Bon, alors vous avez une argumentation là-dessus dans les neurosciences actuelles, mais en tout cas ici c'est très net. C'est-à-dire qu'une image d'enfance qu'on nous présente d'abord comme parfaite, le fait d'utiliser une photo pour nous présenter cette image, non pas une photo dans un album, mais l'image mentale. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la scène et elle nous est donnée avec la netteté d'une photographie, puisque c'est sur un support photographique. C'est presque un premier message, à savoir la mémoire est parfaitement fidèle. Vieux fantasme d'une mémoire non seulement d'éléphant, mais d'une mémoire parfaitement rigoureuse. Or, tout ce que le film nous montre, c'est que cette mémoire fidèle, c'est d'abord l'histoire d'une mauvaise interprétation. Et qu'il ne comprendra vraiment ce qu'est cet épisode, à supposer qu'il le comprenne, qu'à la toute fin. Autrement dit, toute sa vie a été structurée par une image qu'il n'a compris que le jour de sa mort véritable. Ou encore, plutôt que de parler d'incompréhension, l'interprétation qu'il a posée sur cette image tout au long de sa vie a été une interprétation très personnelle, très discutable, qui d'ailleurs tout au long du film ne cesse d'évoluer, puisqu'on comprend que sur cette jetée, ce n'est pas juste aller voir les avions en partance, faire une promenade dominicale et apercevoir quelques visages, mais c'est retrouver la femme dont il est tombé amoureux. Donc finalement, cette image, vous pouvez la lire de plein de façons différentes, alors que c'est censé être un souvenir. Donc première chose, les images du passé s'interprètent à l'infini. Et puis, tout le film est traversé par des ambiguïtés entre ce qu'il vit vraiment, ce que sont ses souvenirs, ce qu'il rêve et ce qu'il imagine. La police épiait jusqu'au rêve. Donc ça veut dire que dans ses rêves, cette image revient. C'est un souvenir, mais les rêves se tissent autour de cette image. Et vous savez bien, quand vous vous les rappelez, que les morceaux de mémoire qu'utilisent nos rêves sont souvent des morceaux très librement interprétés, hein, et mis dans n'importe quel sens, sans aucun souci de rigueur chronologique, comme si les rêves de la nuit avaient besoin de cette rigueur-là. Donc on devine bien qu'il y a ici une contamination de l'imagination et de la mémoire qui fait que la distinction devient de moins en moins évidente. Prenons de ce point de vue le texte 3. La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leurs cicatrices. Alors, là-dessus, la thèse, encore une fois, est classique. Qu'est-ce qui nous permet, dans l'absolu, de distinguer un souvenir d'une imagination? Eh bien, c'est une opération de l'esprit qui consiste à installer des marqueurs pour considérer que cette image-là a eu lieu et que cette autre-là n'est qu'une image sans histoire. Autrement dit, la mémoire travaille plus de ce point de vue-là que l'imagination, non pas parce qu'elle serait créatrice, mais parce qu'elle pose des marqueurs qui permettent de distinguer ce qui revient au passé et qui aurait été vécu comme tel, de ce qui n'est que inventé ou recombiné et qui est issu du présent ou d'un présent qui n'est que le présent de l'esprit. Donc on voit à toutes ces contaminations que ce qui serait la manière habituelle de distinguer le passé du présent ou l'imagination de la mémoire, eh bien dans ce film fonctionne beaucoup moins. Notamment parce qu'on comprend qu'une mémoire normale et à plus forte raison très forte comme celle de ce prisonnier, eh bien, est une mémoire qui réinterprète en permanence le souvenir. C'est le propre d'une mémoire saine, d'ailleurs, de réinterpréter le souvenir en permanence. Vous vous référez certes au même épisode lorsque vous parlez de cette scène de la vie de famille de votre enfance, de cet anniversaire, de cet accident, de ce traumatisme éventuellement. Oui, vous parlez bien du même événement, mais chaque fois, à quelques variations près ou avec de grandes différences, chaque fois que vous rappelez ce souvenir, que vous le rappelez à vous-même ou que vous le rappelez à un tiers, vous le voyez un peu différemment. Parce que vous n'avez plus les mêmes attentes. Ce n'est pas la même chose de raconter un souvenir de ses 6 ans quand on en a 10 que de le raconter quand on en a 40. Vos attentes sont différentes, vos désirs sont différents, vos anticipations sont différentes, et la conséquence de tout cela, non pas du point de vue de la vérité, mais du point de vue de la santé normale de la mémoire, c'est qu'on n'a jamais deux souvenirs parfaitement identiques, je parle pour la même personne, du même événement. C'est assez troublant, hein, parce qu'on insiste souvent sur le fait qu'on n'est jamais tout à fait le même à différents moments du présent, mais il faut ajouter que nos souvenirs ne sont jamais exactement les mêmes non plus à différents moments du présent, et avec Chris Marker, on a une version radicalisée de cela. C'est-à-dire que le passé n'est jamais le même, à tel point qu'on ne peut que le revivre dans des versions très différentes, soit comme l'objet d'un étonnement, l'interprétation chez l'enfant de cette image traumatique, soit comme une image fantasmatique et un échappatoire, l'interprétation de ce souvenir pour le prisonnier avant ses voyages dans le passé, soit comme l'épisode de sa propre mort. Vous voyez, le même épisode, le même souvenir, reçoit des interprétations extrêmement différentes. Toutefois, cette interprétation n'est pas pour autant infinie. On a un grand nombre d'interprétations possibles, mais on revient toujours à cette image, et Marker le fait bien sentir, puisqu'on revient toujours à la même photo, hein, elle est utilisée plusieurs fois dans le film. Elle est diffractée à la toute fin, on recrée même, comme dans les premières images de la préhistoire du cinéma, hein, dans les années 1850-1860, lorsqu'on recrée une animation par, je pense, un hybride de fusil photographique, c'est assez amusant, photographie des coureurs ou des chevaux, et ensuite il fait tourner très rapidement ces images prises à des instants différents, mais pas assez vite, alors on a un début de mouvement, un peu comme à la fin de ce film, mais pas assez fluide encore, on n'a pas atteint les 19 images secondes, ou 18, sachant qu'on est à 24, mais 18 suffirait. Donc on a un petit clin d'œil à cela sur la fin du film, mais concrètement, ce souvenir continue de tourner autour de la même photographie. Ce qui veut dire quoi ? Que l'interprétation est en droit infini, ou encore le pouvoir de la mémoire est en droit infini pour interpréter ou se représenter différemment un épisode, en tenant compte néanmoins de quelques caractéristiques indépassables de cet épisode. Il faut une jetée, des bruits d'avion, cette femme et la présence d'un enfant, et on le comprendra plus tard, du même enfant, mais dans son âge adulte. Un des échecs de la mémoire, par exemple, qu'on comprend dans ce film, c'est que la mémoire a un pouvoir, mais qui ne permet pas pour autant d'échapper à la mort. D'où les dernières lignes de la voix off. Ce visage devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre. Alors c'est pas tout à fait à la fin du film, excusez-moi. Il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu ou s'il l'avait créé, ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir, avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Tout ce qui est décrit ici, la peur, la jetée, le visage d'une femme, les clameurs des gens, la mort d'un homme, cela ne changera pas. L'interprétation en changera, mais ces éléments ne pourront pas changer. Et le film conclut sur une fatalité à laquelle nous sommes habitués, mais que l'expérience et la science-fiction nous laissaient penser qu'on pourrait les dépasser, c'est qu'on n'échappe pas au temps, on n'échappe pas à la mort. Donc on voit que ce pouvoir de la mémoire est finalement relativement limité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Alors, je prends encore une dizaine de minutes pour terminer. Pourquoi est-ce que ça marche particulièrement au cinéma et la science-fiction en général? Bon, je suis dans le camp de ceux qui pensent que la science-fiction est un genre beaucoup plus cinématographique que littéraire, même si je reconnais que la littérature a beaucoup produit de ce point de vue-là. En tout cas, la littérature a toujours mis beaucoup de soin à considérer ce genre comme un genre annexe et bas. Le comique a mis peut-être 1000 ans ou 2000 ans à trouver ses lettres de noblesse. La science-fiction, pour l'instant, ne les a pas encore trouvées, ou pas assez. Vous en avez un qui assume les deux. Je pense à Dick qui disait que dans sa formation, il adorait autant la science-fiction que lire Proust et Zola. Donc on peut tout à fait considérer que les deux ont leur noblesse, mais justement parce que lui allait vers la science-fiction. Donc il assume cela pour lui. Au cinéma, c'était plus simple parce que le cinéma a commencé par être méprisé en général. Donc méprisé un peu plus ou un peu moins un genre dans un support, un média qui est globalement méprisé, c'est pas très grave. Et il faut attendre les années justement 60-70 pour que le cinéma commence à être regardé comme autre chose qu'un art de forain. Et oui, parce qu'il a commencé dans les fêtes foraines, on projetait un peu tout, et notamment des films pornographiques. Alors vous imaginez des films pornographiques en fêtes foraines, je vous parle des années 1896-97. Hein. Oui, il y a le train, l'arrivée du train en gare de La Ciotat, mais il y a des choses beaucoup plus vulgaires. Voilà, donc ça s'est resté lié à l'image du cinéma. Et les tentatives des quelques formalistes des années 20 n'y ont pas changé grand-chose. Donc c'est en fait, on considère que c'est avec la nouvelle vague que ça change. Et à partir de là, bah, la science-fiction n'est plus considérée, en tout cas à l'intérieur du cinéma, comme un sous-genre. Les grands réalisateurs, quand ils s'y essaient, ne font pas cela à côté de leur œuvre, mais l'intègrent totalement à leur œuvre. Il y aurait d'autres raisons qui font que, selon moi, c'est surtout au cinéma que ça s'exprime le mieux, mais je reviens au film de La Jetée. Pourquoi assumer cette réflexion sur la mémoire dans un film et pas ailleurs? Peut-être parce que, justement, le pouvoir de l'image photographique, c'est de retenir apparemment, très objectivement, les traces du passé, et en cela, d'être un support particulièrement objectivant pour la mémoire. Alors vous me direz, oui, mais la lettre de quelqu'un qui l'a écrite il y a longtemps, ou un témoignage, sont des supports de mémoire, bien sûr. Mais on soupçonne moins immédiatement, je dis bien immédiatement, on soupçonne moins immédiatement une image prise par le passé d'être subjective qu'un témoignage ou une lettre. En réalité, évidemment, une image a un point de vue, elle est prise d'une certaine manière, elle est en couleur, elle est en noir et blanc, elle est interprétée, donc elle n'est pas une objectivité pure. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle se présente au moins dans un premier temps comme cela. Donc, pour réfléchir sur la mémoire, nous fait comprendre Chris Marker, ou pour faire des documentaires, j'y reviens, eh bien, rien de tel que le cinéma. En tout cas, c'est ce qu'il semble vouloir dire par ce choix-là. Deuxième raison, eh bien, dans la mesure où la mémoire est aussi en partie créatrice, en partie liée à l'imagination, eh bien, parce que le cinéma permet aussi la narration. Là, c'est pas du tout un monopole, évidemment, la littérature le peut, la peinture en partie également, ce qu'on appelle la peinture narrative ou la peinture d'histoire, par exemple. Mais en tout cas, le cinéma le peut aussi. Et donc, on a à la fois les avantages objectif, entre guillemets, de la photographie, et de l'autre, les avantages en termes d'interprétation et de reconstruction de la narration, dont peut-être une des synthèses serait le ciné-roman ou un film fait d'images fixes qu'on met dans un certain mouvement, c'est-à-dire l'objectivité d'une prise de vue qu'on ne mettrait pas en scène, qu'on laisse croire qu'on ne met pas en scène, et en même temps, leur installation dans une narration qui font qu'on peut leur donner des sens différents, au point que l'image de la jetée vue au début du film n'a plus du tout la même signification qu'une image parfaitement identique présentée à la fin du film. C'est un vieux classique dans le cinéma, peut-être avez-vous entendu parler de l'effet Kuleshov. On prend la même image et on la met dans trois récits différents, et les trois récits différents donneront à cette image une valeur à chaque fois totalement différente. Vous voyez, cette idée que l'image photographique est à la fois l'exemple d'une mémoire fidèle et en même temps la construction du récit qui fait qu'en retrouvant à plusieurs reprises cette image, on lui donne chaque fois une valeur différente. Alors j'en arrive à une interprétation peut-être un petit peu plus personnelle, enfin je ne sais pas, ou en tout cas un petit peu plus risquée, et je vous la présente plutôt comme une hypothèse et une hypothèse de réflexion à travailler dans toute la suite de votre année. Je parle aux EC et aux CAGNEU spécialistes de philosophie, mais à tout le monde évidemment aussi, à savoir que ce double rôle de la mémoire serait aussi ce qui explique qu'en dernier lieu, on se construit un moi seulement dans une durée, mais d'une durée qui ne peut être vécue que socialement ou relationnellement. Alors, pour le dire vite, ça voudrait dire qu'il n'y a de moi que dans la durée, et que la durée est d'abord sociale. C'est pas tout à fait ce que dit le film. Vous aurez, les EC et certains CAGNEU, à entendre pas mal parler cette année de la mémoire collective. Voilà une thématique importante et passionnante quand on traite de la mémoire. Cette mémoire collective, elle ne l'est que faiblement, c'est plutôt un face-à-face. C'est une histoire assez isolée. Elle se passe dans le contexte, on comprend, des années 60, mais c'est pas une histoire avec des tiers. Voilà, c'est à deux, avec des gens autour qui n'interviennent pas dans cette histoire. Donc on n'est pas dans l'idée d'une mémoire collective, on est plutôt dans l'idée d'un temps amical, amoureux, d'une durée que je qualifierais de relationnelle, mais qui n'est pas pour autant sociale. Alors comment expliquer que la mémoire fonctionne alors et qu'elle permet l'identité dans ce temps relationnel? Eh bien parce qu'au départ, tous les temps sont distincts, et l'on a l'impression que les identités sont elles-mêmes diffractées. Alors, j'ai déjà dit pour la voix off, on ne sait pas tellement qui c'est, de quel point de vue il parle, à quel moment, est-ce dans un futur très éloigné ou pas. On a aussi des dynamiques qui sont très différentes. Bon, on a la fluidité et la temporalité normale de la voix off et de la musique. On a les coupes dans le temps que sont les images fixes. Et puis, on a un moment, une exception, peut-être y avez-vous été sensible. Quand on retrouve la femme dans la chambre, elle est en train de dormir. Vous avez ici quelques images en mouvement. Alors, c'est très rapide et c'est un peu brouillé parce que juste avant, on a des images fixes qui sont très proches. Et donc on s'habitue comme ça à ce changement de plan sur l'oreiller où on voit le mouvement de la femme et puis voilà, et tout d'un coup elle va ouvrir les yeux et on va avoir deux clignements d'œil, puisqu'il y a deux, de sorte que on peut le laisser passer. Là vous l'aviez sur grand écran par exemple, sur un écran de télévision, on ne peut pas s'en rendre compte, c'est trop petit, ça va trop vite. Mais vous voyez que Marker joue sur des temps qui ne sont pas coïncidents. Et on peut se demander dans tout cela à quel moment notre soldat a le sentiment d'être lui-même. Eh bien, la réponse, elle nous est peut-être donnée dans leur idylle, justement. Puisque si vous cherchez à quel moment vous avez le sentiment qu'une durée s'installe, qu'entre guillemets on prend son temps, qu'on vit quelque chose et non pas une concentration d'un récit qui nous fait aller sans cesse dans le passé, dans le présent, dans le futur, y revenir et brouiller un peu tout, eh bien vous verrez que ce sont les moments de promenade entre les deux personnages, la plus longue étant sans doute celle du muséum, hein, qui sera justement la dernière. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? Essayez d'en déduire. Eh bien que la mémoire invente sur fond de quelque chose qui est déjà là, donc elle n'invente pas totalement, mais qu'elle n'invente jamais autant que quand elle se projette dans une relation et que cette relation a des résonances affectives. Ou pour le dire autrement, le moi du personnage n'est jamais autant vécu, construit et approfondi que quand il est en relation, en l'occurrence amoureuse, parce que c'est d'abord une relation de confiance. D'où cette idée que la mémoire, ce serait la dernière thèse, j'aurais pas le temps de la développer, est ce qui permet de vivre la durée, dès lors que c'est une durée qui vous plonge dans ce que vous avez de plus intime. Alors je termine sur un pointillé, puisque c'est une manière à la fois un peu décevante de voir ce film, puisqu'il a une puissance poétique que j'écrase un peu en voulant absolument en tirer une thèse, et en même temps il nous oblige à réagir, puisqu'il donne vraiment un sentiment d'énigme tout au long. On va terminer sur un dernier extrait de la voix off, c'est le tout dernier texte. Ils vont faire comme cela une infinité de promenades semblables, où se creusera entre eux une confiance nette, une confiance à l'état pur. Sans souvenir, sans projet, jusqu'au moment où ils sentent devant eux une barrière. Sans souvenir, sans projet, ça veut dire qu'on est dans un présent pur et qu'on sait qui on est. Parce qu'on se fait confiance. Pour se faire confiance, il faut savoir qui on est et qui est l'autre. Et en même temps, tout cela est possible parce qu'il s'est toujours projeté à partir de sa mémoire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai un petit peu débordé sur le temps parce qu'on avait commencé en retard. On a peut-être le temps quand même pour une ou deux questions, sans aucune forme d'obligation, mais n'hésitez pas pour autant. N'hésitez pas à voir et à revoir ce film, vous pourrez le télécharger en toute illégalité sur Internet. Et vous savez peut-être, vous aviez peut-être reconnu certaines scènes, même si vous ne connaissiez pas ce film. Il a été en partie l'inspiration de l'armée des douze singes, mais dans un sens, une forme totalement différente, évidemment. Merci beaucoup. Bonne suite.